95.7. Voici le commentaire de Bernard Drinville.
Monsieur Drinville, mes hommages ce matin.
Oui, mes hommages, même si j'ai pas des bonnes nouvelles à vous apprendre.
Non, ça a l'air qu'on va payer encore de l'argent des contribuables. Tu sais, les poches sans fin des contribuables québécois.
Ah oui, puis écoute, ça sera pas un petit montant d'argent. Je vous parle de la cimenterie mécaniste. Cimenterie mécaniste de Port-Daniel, en Gaspésie. En fin de semaine, on apprenait, sous la plume des journalistes Alexandre Robillard et Jean-François Gibault, que la cimenterie, donc, gaspésienne, allait être vendue à des intérêts brésiliens. Voto Rantim. Et, ben c'est ça. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai fait des appels. Et puis, j'ai non seulement confirmé l'information du journal, mais je vous confirme aussi que ça va nous coûter très, très cher, que cette vente, donc, des intérêts que nous avons dans la cimenterie mécaniste...
Mais comment une vente peut nous coûter de l'argent?
Ben écoute bien ça. D'abord, c'est la caisse qui vend, OK? C'est la caisse qui vend, parce que la cimenterie mécaniste, c'est essentiellement trois partenaires, trois actionnaires. La Caisse de dépôt, Investissement Québec, puis Beaumier, c'est-à-dire le bas de laine de la famille Baudouin-Bombardier, OK? Et là, ce qui se passe, c'est que c'est la caisse qui vend. Ça, là, c'est l'information qui me parvient de Québec. Elle est formelle. La caisse vend et grâce à un vote prépondérant, à partir du moment où la caisse a vend, elle peut obliger ses partenaires, elle oblige ses partenaires à vendre également. Et là, la question, Dom, je m'en viens à ta réponse, Martin. La question, c'est à quel prix est-ce qu'on va le vendre? Est-ce qu'on va vendre nos parts dans la cimenterie mécaniste? OK? Puis l'information n'est pas connue. Je ne suis pas capable de vous dire là quel est le prix qui est sur la table présentement, combien d'argent les Brésiliens sont prêts à dépenser pour nous racheter. Mais je vous rappelle qu'elle a coûté 1,6 milliard à construire, la cimenterie. OK? Puis il y a beaucoup d'argent des Québécois dans ce 1,6 milliard. Il y a 350 millions qui proviennent d'Investissement Québec. Ça, c'est le bras financier, si vous voulez, du ministère de l'Économie. Mm-hmm. On a mis 250 millions de prêts, puis on a rajouté 100 millions en équité. La Caisse de dépôt, c'est pas connu le chiffre exact, mais c'est bien au-dessus de 500 millions qu'elle a mise, qu'elle a investi en notre nom dans la cimenterie mécaniste.
Ça peut, je compte, là, 3 plus 2 plus 1 plus 5.
Mettons 350... Oui, c'est ça. On doit être à autour d'un milliard qu'on a mis là-dedans. Probablement plus qu'un milliard, parce que sur un projet d'1,6, c'est drôle, hein? Moi, j'ai l'impression que Bombardier-Baudouin, ils n'ont pas mis 600 millions. Mais peut-être qu'ils l'ont mis, là, je ne sais pas. Là. Mais je pense qu'on est très conservateur si on dit qu'on a mis un milliard, au moins un milliard de fonds publics, c'est-à-dire Investissement Québec et la Caisse là-dedans.
OK.
OK, dans la cimenterie qui en a coûté 1,6. Je pense qu'un milliard, c'est un chiffre très conservateur. Et ce que j'ai su hier soir, en parlant avec des sources à Québec, c'est que les Québécois vont perdre plus de 500 millions dans l'aventure. Donc, pour répondre à ta question, Martin, si elle nous a coûté 1,6, puis on a mis au moins un milliard de fonds publics là, au sens large, c'est-à-dire Caisse de dépôt et Investissement Québec, ben tu peux penser que les Brésiliens vont le racheter pour moins d'un milliard. Là. Tu comprends?
C'est terrible.
Puis c'est encore... Qu'est-ce que tu veux? C'est encore un projet en région. C'est encore un projet en Gaspésie. Puis ça nous rappelle évidemment le scandale de la Gaspésia, la fameuse papetière là, qu'on avait voulu relancer, qui n'a jamais vu le jour. Mais dans laquelle on avait perdu 250 millions, je vous le rappelle. Mmh. L'aventure de la Gaspésia, là, c'était 250 millions qu'on a mis là-dedans.
Mais ça démontre une chose, Bernard. Si le privé n'était pas là, il y avait peut-être une raison. Puis c'est peut-être ce qu'on constate là. Il n'y avait pas de marché, puis l'usine n'allait pas valoir grand-chose.
Non. Puis c'est ce que les caquistes disent à Québec. Ils disent c'est un projet qui aurait jamais dû se faire puis qui s'est fait avec les mauvais partenaires.
Mais c'était pas sous votre gouvernement que vous aviez fait ça?
Absolument. C'était sous le gouvernement de Mme Marois, puis pour des raisons...
C'était quoi vos motivations à ce moment-là? Parce que visiblement, ça n'a pas marché.
C'était du développement économique. Il y a une grosse source de... tu sais, il y a une ressource naturelle dans ce coin-là de la Gaspésie qui sert à fabriquer du ciment. Là, c'est le phosphore, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est cette matière première dont est fait, qui est la matière première du ciment. Une importante source à l'état pur, là-bas, là, qui est de très, très haute qualité. Mais tu sais, ce projet-là, depuis le début, il va mal. Il y a eu des problèmes de construction. À un moment donné, il y a eu des problèmes avec avec une cheminée. Il y a eu un problème avec un four. Si vous allez sur Internet, là, les images qu'on voit là, des derniers reportages, c'est la cimenterie qui crache une espèce de poussière collante. Là. C'est comme du crachin granuleux là, qui tombe sur les voitures là, à des kilomètres à la ronde, parce que, qu'est-ce que tu veux, les cheminées de cette cimenterie-là sont très hautes. Fait que quand ça crache de la cochonnerie, ben ça tombe loin. Fait que depuis le début, ce projet-là a des problèmes. Puis il a fallu réinvestir de l'argent pour finir la construction. Puis il y a eu des emprunts qui sont ajoutés à ça. Puis tu sais, moi, j'ai dit à Québec, écoutez, si la caisse vend, c'est-tu parce qu'elle pense qu'elle finira jamais par faire de l'argent avec le projet? Puis la réponse qui m'est revenue, c'est ça. Ou bien la caisse pense qu'elle ne rentrera jamais dans son argent, ou bien on lui demande de réinvestir encore, de remettre de l'argent dans la cimenterie.
Oh, non.
Puis là, elle a dit comme, là, non, c'est fini. Voilà. Là, on a assez de données, comme dirait l'autre. Là. Et puis donc, la caisse vend sa participation, ses actions là-dedans. Puis en vendant, bien, elle vend tout le reste. Elle vend les actions qu'Investissement Québec et la famille Bombardier-Baudouin détiennent également. Fait que c'est très dommage. Puis évidemment, bien, c'est un autre exemple d'interventionnisme étatique qui tourne à l'eau de vaisselle. Là. C'est pas juste décevant, c'est choquant.
Non, effectivement. Puis, on avait ressorti l'histoire également, que c'était pas passé au BAP, hein, cette histoire-là, quand les cheminées se sont mis à cracher de la colle. Là,
non.
Là, les
non.
gens disent, ouais, mais c'est non. sûr, il est pas passé au BAP. Puis, le chef du Bloc, qui était le ministre de l'Environnement à ce moment-là, dit, ouais, mais là, à l'époque, on pouvait pas le savoir. Ouais, mais là, si vous n'avez pas passé le BAP, c'est sûr que vous l'avez pas su.
Regarde-moi, je défendrai pas personne le matin. Là.
Ouais, ouais.
Je trouve que les chiffres sont assez éloquents. Là. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Pour la Gaspésie, c'est plate en maudit. Tu sais, parce que toutes les fois qu'on... Ben, c'est pas vrai, pas toutes les fois, là, parce que la filière éolienne fonctionne plutôt bien. Là. Mais je veux dire, tu sais, on veut aider cette région-là. On veut favoriser des projets qui vont créer de l'emploi. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Ça tourne au fiasco. Puis l'affaire aussi, c'est que, comme me disaient mes contacts à Québec, la cimenterie devait créer 400 jobs. Puis là, je comprends, c'est qu'on est autour de 200. Fait que non seulement ça a coûté beaucoup plus cher que prévu, mais ça a créé moins d'emplois que prévu également. Fait que c'est ça. Fait que la CAQ est pognée avec ça. Vous comprenez bien que, je veux dire, si je vous sors ça à matin, là, plus de 500 millions, là, c'est parce qu'il s'apprête à nous annoncer ça publiquement là, dans les prochains jours. Là. D'après moi, Fitzgibbon va sortir, là, mais ils sont en train de mettre la table. Là. Et puis, ils nous préparent mentalement là, à cette mauvaise nouvelle. Mais moi, ça commence à faire pas mal de mauvaises nouvelles économiques. Là. Quand tu regardes Bombardier puis la série C, quand tu regardes l'argent perdu dans le Cirque du Soleil, on a perdu quoi? Au-dessus de 250 millions là-dedans, la caisse de dépôt. Après ça, tu regardes les 80 millions que Investissement Québec a perdu dans les masques à lithium. Puis là, on a repompé la semaine passée un autre 95 millions. Puis ça pourrait monter jusqu'à 300 millions. Puis après ça, tu regardes, puis là, t'as la cimenterie. Il va falloir à un moment donné que le gouvernement Legault nous annonce des bonnes nouvelles économiques aussi. Là.
Oui.
T'sais, parce qu'ils sont arrivés avec une image de gouvernement économique qui était là pour créer de la prospérité, puis créer des emplois payants, puis tout ça. Mais je veux dire, les tuiles économiques ne cessent de s'abattre sur la tête de Legault. Il doit commencer à avoir hâte de nous annoncer des bonnes nouvelles économiques, lui-là. Là.
Absolument. T'as lu le livre de Guy Ouellet?
Oui, monsieur. Alors, j'ai lu ça hier soir. Il sort ça là, dans les prochains jours. Là. Guy Ouellet, évidemment, député de Chaumedé, ancien policier de la Sûreté du Québec. C'est très intéressant. Je vous le dis, c'est très intéressant. D'abord, si je voulais résumer, je vous dirais que c'est un long réquisitoire contre Robert Lafrenière, l'ancien commissaire de l'UPAC.
OK.
Ce que dit Guy Ouellet dans son livre, c'est qu'il est convaincu, lui, que c'est Robert Lafrenière qui a fomenté son arrestation. Parce que vous vous rappelez, Guy Ouellet a été arrêté. Hein, il a été arrêté par l'UPAC. Il n'y a jamais d'accusations qui ont été déposées. Puis les mandats d'arrestation ont finalement été retirés par une décision du DPCP. Ça avait suscité toute une commotion à Québec parce qu'on se disait, ben voyons donc, comment ça se fait que l'UPAC peut arrêter un député comme ça, là? Puis plus on en apprenait sur les circonstances de son arrestation, plus on se posait des questions. Puis on attendait les accusations ne sont jamais venues. Puis entre-temps, ben Lafrenière a démissionné le jour de l'élection, ouais, en 2018, vous vous rappelez. Fait que là, Ouellet lui dit, c'est pas compliqué. Lafrenière a voulu avoir ma tête parce que moi, je m'opposais à ce que l'UPAC devienne un corps de police en bonne et due forme. Puis je voulais que Lafrenière rende des comptes. Parce que le grand rêve de Lafrenière, dit Guy Ouellet dans son livre, c'était de devenir un chef de police en bonne et due forme. Lui, il rêvait de devenir chef de la Sûreté du Québec. Puis son rêve, à un moment donné, ne s'est pas réalisé. Et puis, quelques années plus tard, il se retrouve à la tête de l'UPAC. Puis l'objectif de Lafrenière, c'est de faire de l'UPAC un corps de police en bonne et due forme. Ce qu'il a réussi. L'UPAC est devenu un corps de police en bonne et due forme. Il y a eu une loi qui a été votée à cette fin, la loi 107, si je ne me trompe pas. Et donc, Lafrenière est devenu, a réalisé son rêve, sauf que, dit Ouellet, il a emprunté des chemins de travers pas trop, trop catholiques pour arriver là. Et un de ces chemins-là, ça a été de le faire arrêter. De faire arrêter un député de l'Assemblée nationale, président de la Commission des institutions, pour se venger du fait que Ouellet voulait pas que l'UPAC devienne un corps de police et donc voulait pas que Lafrenière devienne chef de ce corps de police.
C'est terrible, hein? Mais si tout ce qui est raconté là-dedans est vrai, ça démontre à quel point tu fais une commission d'enquête pour évidemment démasquer des bandits de la fraude, puis deviennent eux-mêmes à quelque part, sans dire qu'il y a de la fraude. T'sais, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ils sont pas plus blancs.
Honnêtement, il y a de l'hommerie en maudit là-dedans. Là.
Ça fait...
Je veux dire, j'aime bien la manière avec laquelle tu poses la question, Dominique, si tout ce qui est raconté est vrai,
oui,
mais s'il y avait juste la moitié de ce qui est raconté qui était vrai, écoute, des coups de cochon, il s'en fait dans la police, m'a dire une affaire. Hein?
Hey, des jambettes de par l'ambition d'un qui fait une jambette à la place.
Puis là, tu te dis, s'ils sont capables de se faire des coups de cochon comme ça entre policiers, ou enfin entre... Si un chef de police, le chef de l'UPAC, est capable de faire ce qu'il a fait à Guy Ouellet, si ce qui est allégué par Ouellet est vrai, tu dis... S'ils sont capables de faire ça à un député, imaginez-vous ce qu'ils sont capables de faire à un simple citoyen quand ils décident de s'y mettre, les policiers, là.
On est mieux pas.
Non, c'est pas rassurant pantoute. Puis je vais vous dire, il y a plein d'autres questions qui sont soulevées dans le livre, notamment toute l'histoire autour du permis de port d'armes de Luigi Coretti. Pas si vous vous rappelez de ça. Ça s'est passé en 2007. Luigi Coretti était propriétaire d'une agence de sécurité, puis était propriétaire aussi d'une compagnie de camions blindés, là. Tu sais, un genre un peu la Brinks, là. Bon, Garda. Et puis, Coretti demande la permission d'avoir le droit de porter une arme. Puis ça, tu peux le demander, toi, Dominique, moi aussi, là. Mm-hmm. Mais il y a un processus administratif, là, pour décider si tu as droit ou pas. Puis c'est très, très, très restreint. Et bizarrement, ce que raconte Guy Ouellet, c'est que le ministre de la Sécurité publique d'alors, Jacques Dupuis, donc ministre libéral, et son chef de cabinet, Pierre Moreau, parce qu'à ce moment-là, en 2007, Moreau vient d'être battu aux élections, va revenir en politique plus tard, va se faire réélire dans Châteauguay, mais il a été battu donc dans son comté. Et puis donc, il devient directeur de cabinet de Jacques Dupuis. Puis les deux, Moreau et Dupuis, disent à Ouellet, faudrait que tu appuies ça, toi, la demande là, de Coretti d'avoir un permis de port d'armes. Ben, moi, je suis pas pour ça, qu'ils suivent la procédure. Ouais, mais garde, va donc rencontrer, va rencontrer Pietro Perino. Pietro Perino, qui est un membre influent de l'establishment libéral, qui est un conseiller politique de Daniel Johnson, de Robert Bourassa. Et puis là, ils envoient Ouellet rencontrer Perino à sa résidence. Puis Perino, il dit, écoute, il faut que tu appuies ça, la demande. Faut pas que tu sois contre le fait que Coretti ait une arme. Puis tout ça. Puis Ouellet dit, mais pourquoi, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi vous me parlez de ça, là? C'est pas politique, ça, une demande de permis de port d'armes. C'est une affaire administrative. Puis il revient de son meeting. Puis Perino, évidemment, a fait un rapport à Moreau. Puis Moreau, selon ce que raconte Ouellet, là, Pierre Moreau le menace qu'il perde sa job d'adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Oui. Puis apparemment, Pierre Moreau, moi j'ai tweeté ça, là, puis Pierre Moreau apparemment aurait nié là, qu'il a menacé, il aurait nié avoir menacé Guy Ouellet. De lui faire perdre son poste d'adjoint parlementaire au ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, d'alors. Fait que, tu sais, t'as toutes sortes de... Puis, tu sais, il y a toute l'histoire des fuites.
Oui.
Les fuites des enquêtes de l'UPAC aux journalistes. Ouellet réitère que c'était pas lui le bandit, comme l'a appelé Lafrenière. Tu sais, Lafrenière, il avait dit, on va les arrêter, bandits, là, qui font des fuites.
On avait laissé sous-entendre qu'il était probablement mêlé à ça aussi.
Oui, mais lui, il a toujours nié, Ouellet. Ouais. Puis là, il nie encore, il dit que ça n'a rien à voir. Il dit, c'est pas moi qui a orchestré les fuites. Je ne suis pas l'auteur des fuites, des enquêtes, des fuites sur les enquêtes qui ont mené à toutes sortes de reportages. Et dans une entrevue qu'il a donnée à Paul Arcand tout à l'heure, il laisse entendre que les fuites étaient orchestrées par l'UPAC elle-même, par la direction de l'UPAC. Que c'est l'UPAC, dans le fond, qui faisait couler les documents.
Terrible.
Ah, écoute. Fait que là, tu sais, je veux dire, écoute. Puis là, ben, Ouellet, qu'est-ce que tu veux? Lui, il veut laver sa réputation. Fait qu'il a intenté des poursuites,
oui. Un
recours. Puis on est en attente, Dominique, puis je termine là-dessus. On est en attente de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. Parce que le Bureau des enquêtes, quand Lafrenière a démissionné le jour de l'élection en 2018, bon, ben, évidemment, là, il y avait toutes sortes de questions qui se posaient. Sur qu'est-ce qui est arrivé à Ouellet, puis pourquoi tout ça. Fait que le Bureau des enquêtes indépendantes, actuellement, mène une enquête là, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'enquête qui a mené à l'arrestation de Ouellet et qui était derrière les fuites orchestrées, les fuites, le coulage, dans le fond, à l'UPAC. Puis, donc, le BEI, à un moment donné, va conclure son enquête. Est-ce qu'on va finir par savoir qui était à l'origine des fuites, puis comment ça se fait que Ouellet a été arrêté, député Ouellet? Fait que, on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Il m'a dit, du brassage de merde à la police, fait en masse.
Tu sais, Bernard, tu vas être d'accord avec moi, quand j'entends toutes sortes d'histoires de même sur la police, ça me donne le goût de scraper une statue de Jonah McDonald. S'il fallait qu'il y en ait une proche de moi, j'y arracherais la tête.
Faut définir ça.
Quand j'entends des affaires de police de même... Là.
Toi, tu voudrais définancer la police.
Hein,
quand t'entends des affaires de même, tu dis, on devrait couper le budget, puis si je pouvais avoir une statue pas loin, je l'arracherais.
Si j'avais une statue de Jonah McDonald proche, Bernard, elle mangerait une sacrifice de volée.
Parce que c'est lié.
Tout est lié.
Pourquoi t'as arrêté en si bon chemin? T'en as des statues au Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Moi, mais je n'ai pas de Johnny McDonald.
Ah, bon, William Price, ça fait ça.
Tu dis, tout est dans tout, là. Tout est bon dans le poulet.
Ah oui, c'est vrai.
Ah ouais, lâche-toi lousse.
T'as raison.
Lâche-toi lousse, mon Martinus. Lâche-toi lousse. Ah ouais.
Merci, Bernard.
Non, mais sont-tu assez débiles?
Ah, écoute.
Sont-tu assez débiles?
Il y a beaucoup de suite des idées.
Christophe Colomb. Bon, la police était là. La police était là.
Ils ont regardé.
Non, mais la police était là, Christy. Bâtard. Puis il laisse les cocos de gauche tirer la statue.
Comme en Irak, toute chose.
C'est Saddam Hussein, Johnny McDonald, même combat.
Police, le racisme.
Tout est mêlé.
Le racisme, la police, la wananiche, c'est toute la même maudite patente.
Ah, voilà. Exact. Tout est lié.
Hein? Tout est lié. Tout est bon dans le poulet.
Merci,
le
Bernard.
Ouais, définançons la police. Jetons à terre les statues.
Voilà.
Et bon, donc.
À jeudi.
Bon, hey, salut, à jeudi.
Salut. Bernard Drainville, 8h34. Kick 95.7.